On va ouvrir la parole de Dieu.
Et s'il y avait un titre à donner à ce message, c'est les conditions, ou quelques conditions, et même je vais droit au but, trois conditions pour bien travailler ensemble. Hier après-midi, j'étais vraiment réjoui de voir ce petit groupe qui était en train de travailler ensemble pour ce détapissage. Il y avait des pères de famille qui étaient là, il y avait aussi des célibataires qui étaient là, et il y avait aussi des ados. Il y a une des ados qui arrivait toute seule avec le bus. Et sa maman donc, nous a appelés pour savoir s'il était bien arrivé. Mais elle y tenait, elle voulait aussi participer à ce détapissage. Et ce qui m'a réjoui, c'est de voir petits et grands, finalement, travailler ensemble. Ensemble pour l'œuvre de Dieu, parce que de toute façon, tout ce que nous pourrons faire, parce que c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi, même le verre d'eau tendu au frère ou à la sœur, ne manquera pas d'être récompensé. Parce que si nous sommes oublieux, Dieu, lui, il n'est pas oublieux et sera peut-être même nous surprendre. Et on le voit lorsque Jésus rappelle cette parabole et qui sera ni plus ni moins, et qui est plutôt même une prophétie. Quand Jésus va dire, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Et les gens qui seront là et qui écouteront les paroles qui sortiront de la bouche du Seigneur Jésus vont dire, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim avoir... Et le Seigneur va leur rafraîchir la mémoire. Dieu n'est pas un Dieu qui est oublieux. Mais il se souvient de tout le bien que nous pourrions faire pour nos frères et nos sœurs, en tout cas pour l'avancement du règne de Dieu. C'est un fait certain. Dieu se plaît à voir ses enfants travailler ensemble pour lui. J'ai envie même de rappeler que Dieu n'a jamais voulu que chaque chrétien fasse cavalier seul. Jésus lui-même, lorsqu'il était sur terre, il avait 12 disciples pour les avoir avec lui, mais avec qui il a pu partager le ministère, quand il les a envoyés deux par deux, quand il les a sollicités, les disciples ont partagé le ministère du Seigneur Jésus. Et je crois quelque part qu'il en est de même pour nous aujourd'hui. Le Seigneur désire que nous nous unissions, que nous unissions nos cœurs, que nous unissions nos forces afin de travailler ensemble pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais vous rappeler trois conditions à remplir pour bien travailler ensemble. Trois conditions à remplir afin de bien travailler ensemble à la gloire de Dieu notre Père. Est-ce que vous voulez découvrir ces trois conditions, mes amis? J'ai entendu quelques amen seulement. Joël, t'as pas bien parlé, t'as pas parlé assez fort. Est-ce que vous voulez découvrir ces trois conditions ce matin? Vous avez eu raison de dire amen. Ces trois conditions, c'est Dieu lui-même qui nous les apporte et qui, en tout cas, nous les rappelle. Et pour ce faire, on va lire Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, du verset 1 au verset 6. Genèse chapitre 11, du verset 1 jusqu'au verset 6. Genèse chapitre 11, du verset 1 jusqu'au verset 6. Merci Seigneur pour la liberté de ces feuilles qui tournent. Nous lisons. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Telle est la conclusion de Dieu. Rien ne les empêcherait de faire tous ce qu'ils auraient projeté. Avez-vous vu comme moi dans ce verset 6 que sont explicitées, que sont exprimées les trois conditions qui vont nous permettre non seulement de bien travailler ensemble, mais aussi de réussir. Et réussir pas pour notre propre gloire, mais réussir pour la gloire de Dieu. Dieu lui-même, de sa propre bouche, ayant descendu, regardant ce que les hommes en ce temps bien avaient projeté de faire, a déclaré de sa bouche trois conditions nécessaires pour bien travailler ensemble. Mais la première, nous la découvrons au début du verset 6. Voici, ils forment un seul peuple. Un peuple, j'ai regardé pour vous dans le dictionnaire, un peuple, il est défini par la chose suivante. Un peuple, c'est un ensemble d'êtres humains vivant sur un même territoire. C'est un ensemble d'êtres humains qui est également soumis aux mêmes lois et qui sont unis par des caractéristiques communes, telles que, par exemple, la culture ou la langue. Et on va ainsi parler, quelque part, du peuple français, qui n'a rien à voir avec le peuple chinois ou bien le peuple américain. Et il y a comme cela, sur tous les différents continents, différents peuples. Eh bien, nous aussi, croyants, nés nouveaux, nous formons un peuple. Pas des moindres, un peuple spirituel, un seul et même peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes un peuple que Dieu s'est acquis par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Un peuple qui est défini de la manière suivante dans 1 Pierre chapitre 2 et du verset 9 jusqu'au verset 10. On va le lire ensemble. Je vous laisse le temps de le chercher. Je veux que vous l'ayez devant les yeux. 1 Pierre chapitre 2 du verset 9 au verset 10. Voilà. 1 Pierre chapitre 2 du verset 9 au verset 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant est le peuple de Dieu, vous n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Avons-nous compris ce que nous avons lu ? Aux yeux de Dieu, nous sommes son peuple à part entière, nous qui formons le peuple spirituel de Dieu. Nous sommes soumis aux lois divines de Dieu. Et ces lois, nous les retrouvons inscrites dans la parole de Dieu. Et puis aussi, plusieurs caractéristiques nous unissent les uns les autres. Et Paul se charge lui-même de pouvoir en donner quelques-unes quand on lit Éphésiens chapitre 4, du verset 4 jusqu'au verset 6. Regardez ce qu'il est dit. Éphésiens chapitre 4, du verset 4 au verset 6. Il y a un seul corps, mais aussi un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Et juste dans ces trois versets seulement que nous venons de lire, il y a déjà sept choses qui nous unissent, frères et sœurs. Nous sommes un seul corps, et nous faisons partie intégrante du corps de Christ. Un seul esprit, l'esprit de Dieu, doit habiter nos vies. Parce que la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Vous avez été appelés à une seule espérance, nous regardons tous, non pas par terre, mais vers le ciel. C'est de là que le Seigneur Jésus va venir chercher son Église. Et notre espérance, elle va par-delà de toute espérance humaine. Notre espérance, c'est de nous retrouver d'éternité en éternité dans la maison de Dieu, dans le paradis de Dieu. Amen, frères et sœurs. Et on pourrait rallonger la liste et trouver ces sept points qu'énumère l'apôtre Paul et qui nous caractérise et finalement qui nous unit. Est-ce que nous sommes fiers d'appartenir au peuple de Dieu ? C'est sûr ? On a besoin de prendre conscience de ces choses. Regardez par exemple ce qu'il est dit autre part concernant le peuple de Dieu. Nombre chapitre 23. Moi j'aime bien cette déclaration. C'est un prophète particulier, le prophète Balaam, qui est presque, j'ai envie de dire, contraint par l'Esprit de Dieu à pouvoir proclamer et prophétiser sur le peuple de Dieu. Il va dire, Nombre chapitre 23, verset 9, parlant du peuple de Dieu, « Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. » Et parlons du peuple d'Israël, mais aussi on peut extrapoler, parlons du peuple de Dieu, de l'Église de Jésus-Christ. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Frères et sœurs, nous avons notre demeure à part. Merci Seigneur pour tout ce que Dieu nous donne ici-bas. Merci Seigneur pour les belles choses de la terre, parce qu'il y a aussi des belles choses. Mais nous sommes un peuple à part parce que notre maison véritable, elle est là-haut dans le ciel de gloire. On est à part. Et dans le monde spirituel, le diable voit bien que nous sommes des êtres, des hommes et des femmes à part. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. On est parmi les nations, mais on ne fait pas partie de ces nations. On a été transformé en nouvelle création, en nouvelle créature. Et le meilleur reste encore à venir parce que nous serons transformés de gloire en gloire. Nous ressemblerons au Seigneur Jésus. Tel il est, eh bien tel nous sommes appelés à être ici-bas. Mais d'une manière effective, nous serons semblables au Seigneur Jésus dans son ciel de gloire. On aurait pu regarder un peu plus bas dans ce chapitre 23, ne le cherchez pas. Il nous est dit, concernant toujours le peuple de Dieu, c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. J'ai en face de moi des lionnes et des lions. Ne rugissez pas. Oui, on parle de Jésus qui est le lion de la tribu de Judas. Nous aussi, nous nous levons. Vous avez compris l'image. Il ne s'agit pas d'être un lion ou une lionne bien pour notre propre famille ou pour notre prochain, mais spirituellement être des lions et des lionnes. Mon frère, ma sœur, relève la tête. Relève la tête. Et sois fier d'appartenir, alléluia, au grand peuple de Dieu. C'est un privilège, frères et sœurs, de pouvoir savoir ce matin que nous faisons partie intégrante du peuple de Dieu. Et peut-être ici, en ces lieux, il y aurait quelqu'un qui n'a pas cette conviction ou cette certitude qu'il fait partie du peuple de Dieu. Et toi qui es ici présent dans ce lieu et qui ne fais pas partie du peuple de Dieu, sache que toi aussi, tu peux appartenir à la grande famille de Dieu. Il suffit pour toi que tu te repentes de tes péchés. Ça commence par cela. Pour entrer dans ce peuple qui est saint, on l'a lu tout à l'heure, il faut se débarrasser de toute souillure. Il faut abandonner cette vie sans Dieu et accepter que Jésus puisse venir régner dans votre cœur et qu'il soit le roi incontesté. Alors tu pourras entrer, alléluia, dans la famille de Dieu. Alors tu bénéficieras de la grâce de Dieu. Comme on a chanté ce matin, seule ta grâce m'a sauvé. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. C'est par aucun mérite. Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'ils ont eu une bonne vie, ou etc., parce que finalement, il le vaut bien qu'ils sont chrétiens. Non, tout est par grâce. Regardez bien, tout est par grâce. Parce que personne ne peut se lever et dire, mais moi je suis juste, moi je suis pas comme le reste du monde. Nous sommes tous pécheurs, nous dit la parole de Dieu. Et tout est par grâce. D'ailleurs, la Bible le rappelle quand on lit Tite chapitre 2, versets 11 à 14. Et ce texte, on peut également le lire, Tite chapitre 2, du verset 11 jusqu'au verset 14, regardez, parlant de la grâce de Dieu. Tite, chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. C'est pour ça que je peux te dire ce matin, excuse-moi, je te tutoie, tu es aussi concerné. Parce que tu fais partie de ces 7, et quelques milliards d'êtres humains que Dieu veut sauver. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Jésus à la croix a accepté de mourir à notre place comme un parfait substitut pour le pardon de nos péchés, mais la Bible nous le dit et on vient de le lire, mais pour aussi se former un peuple qui lui appartienne. Et pour que tu puisses entrer dans la grande famille de Dieu, il te faut te repentir et inviter Christ à être le sauveur et le Seigneur, alléluia, de ta vie. Et tu peux le faire, même ce matin, peut-être même tout à l'heure seul chez toi. Seigneur, je veux te connaître davantage. Je veux moi aussi faire partie du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu n'a rien à voir avec une quelconque dénomination. Le peuple de Dieu n'a rien à voir. Celui-là dit qu'il est catholique, celui-là dit qu'il est chrétien, évangélique, celui-là dit qu'il est pentecôtiste, tout ça, ce n'est pas ça le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu consiste à avoir une relation avec Dieu. Le peuple de Dieu consiste à avoir, à connaître Dieu le Père, mais connaître aussi celui que Dieu a envoyé, parce qu'il fallait bien une connexion entre le ciel et la terre, cette terre qui a été maudite à cause du péché. Et Dieu a créé cette connexion en envoyant son fils Jésus. Et si je ne passe pas par la porte que Jésus, je ne peux être sauvé, et encore moins faisant partie intégrante du peuple de Dieu. J'en arrête là au premier point, former un peuple. Nous formons ce peuple. La première condition est réunie. Il y en a une deuxième qu'on découvre toujours dans Genèse chapitre 11 et le verset 6, lorsque Dieu va dire qu'ils ont également un même langage. Que vous le vouliez ou non, notre langage sera toujours révélateur de notre appartenance. Oui ou non? Juste en écoutant certaines personnes, vous arrivez à distinguer d'où est-ce qu'elle vient. Moi, j'avais un problème. Une fois, j'étais dans une église, celle qui se trouvait à Toulouse. Et là, il y avait un frère, j'appréhendais quand il venait vers moi. C'était un frère tout petit, tout trapu. Et quand il me parlait, j'avais du mal à comprendre. Il fallait même que je sorte ma troisième oreille pour essayer de décoder ce qu'il me disait, parce qu'il avait un fort accent. Il avait l'accent du Sud. Et au départ, c'était difficile. J'acquiesçais comme ça, mais intérieurement, Seigneur, aide-moi à comprendre, parce que s'il me pose une question, c'est fini, je suis grillé. Et Dieu m'a aidé, parce que quelquefois, je lui reposais la question, deuxième fois, troisième fois, qu'est-ce que tu as dit? L'accent du Nord n'est pas le même que l'accent du Sud. Hein. Aller à Paris, les Parisiens, peut-être quelquefois, ont du mal à comprendre les Marseillais, qui ont un peu plus l'accent chantant. On dit, nous les Martiniquais, qu'on mange les R. Au lieu de dire Martinique, on dit Martinique. Voyons, et donc par l'accent, on peut arriver un petit peu à distinguer les, et donc d'où est-ce que vient la personne, c'est peut-être ses origines, c'est pas toujours systématique, mais ça vous est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé. Pierre lui-même, à un moment donné, il a été reconnu de par son langage. Pierre habitait, Pierre est né donc à Capernaum, et c'était en Galilée. Et l'accent qui a priori, qu'il y avait en Galilée, n'était pas la même qu'on retrouvait dans la Judée, par exemple, à Jérusalem. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, on a dit donc de Pierre, Matthieu chapitre 26, verset 73, on peut le lire. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, « C'est certainement tu es aussi de ces gens-là, toi, car ton langage te fait reconnaître. » Voyez, le langage nous trahit en bien ou en mal. Il plaise à Dieu que notre langage nous trahisse en bien, parce que les gens de l'extérieur, ils sauront faire la différence, croyez-moi. La Bible dévoile aussi toutes sortes de langages. Le langage de la ruse. Est-ce que vous connaissez le langage de la ruse? Job chapitre 15, verset 5. Et puis pour vous, là, quelques versets, vous dire que l'histoire du langage, la Bible en parle à un rayon. Ton iniquité dirige ta bouche et tu prends le langage des hommes rusés. La ruse a son propre langage et que Dieu nous garde d'avoir le langage de la ruse. Un autre passage, mais prenez des notes. Psaume chapitre 35, verset 20, ne le cherchez pas. Le langage de la paix. Amen, ça nous intéresse. Il nous est dit, malheureusement, pour certaines personnes, ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Mais il n'y a pas ces gens-là ici. Hein. Ici, c'est une église de paix. Ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Et si nous avons le prince de la paix dans nos cœurs, nous prodiguerons toujours la paix au travers de notre bouche. On va bénir le frère, on va bénir la sœur, on va encourager celui même à l'extérieur qui ne connaîtrait pas Dieu. On va bénir le prochain, quel qu'il soit. La Bible nous parle également du langage des anges. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 13, quand je parlerai le langage des anges et des hommes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me servira à rien. La Bible nous parle également du langage que nous allons avoir au ciel. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un unique langage dans le ciel? Qui dit oui, qui dit non? Certains disent oui, certains disent non. Au fait, je vais vous le dire, on n'en sait trop rien. Et que Dieu me garde de vous emmener dans des voies qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu. Il faut qu'on soit scripturaire. On peut supposer bien qu'il y aura un langage céleste, mais ce sont des choses qui nous échappent. Si on arrive à expliquer ce qui se passe dans le ciel, c'est peut-être parce qu'on n'a encore rien compris, parce que ce sont des choses ineffables. L'apôtre Paul a dit qu'il a vu des choses, il a essayé d'en décrire les grandes lignes, mais il a dit qu'il y a des choses, je ne peux pas en parler. Mais on peut peut-être supposer, on a le droit de le faire, ou avoir notre propre opinion, bien que là-haut, il y aura un langage céleste, puisque bien on sera amené à pouvoir chanter un cantique. Et l'anglais, s'il chante avec l'allemand ou le chinois, il y aura un gros problème, mais ce sera harmonieux, frères et sœurs, moi je ne m'inquiète pas, mon Dieu, il est tout puissant, et il saura s'occuper de cela. Mais en attendant, frères et sœurs, je crois que tous les véritables chrétiens possèdent un seul et même langage. Amen ou pas amen? C'est un langage spirituel. C'est un langage qui est fondé sur les vérités de la parole de Dieu. Ce langage, il nous invite à pouvoir veiller à toujours faire sortir de nos bouches des paroles nobles et saines. Quand on a fait l'instruction pour les futurs candidats au baptême, j'ai demandé, est-ce que vous pensez qu'un chrétien peut incessamment comme ça dire des gros mots? Et tout le monde, unanimement, a dit, mais non, c'est pas. Alors, c'est vrai qu'on a hérité d'un héritage qui était celui de l'ancien Joël, l'ancien X ou Y. Mais Dieu nous appelle à pouvoir renouveler, bien sûr, nos pensées et mettre une garde à notre bouche pour ne pas laisser sortir des paroles orduriées de notre bouche. Des paroles nobles, des paroles saines doivent sortir de notre bouche. C'est tellement important. Des paroles pleines de douceur et de bienveillance. Des paroles d'amour et des paroles de vérité. Oui, ma sœur, tu as eu raison de dire amen. Des paroles de bonté et des paroles de grâce. Les personnes, ils ne peuvent pas s'empêcher de pouvoir toujours sortir des choses négatives. Remarquez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est un langage qui nous exhorte à toujours bénir et ne jamais maudire parce qu'on a compris la clé que Dieu nous a laissée par la bouche de l'apôtre Pierre. Lorsqu'on bénit, c'est comme cela qu'on hérite immanquablement la bénédiction de l'Éternel. Et quand on le comprend, alors on fait en sorte de toujours bénir le prochain. Voilà donc les caractéristiques du langage que Dieu désire trouver dans chacune de nos bouches et qui nous permettra quelque part de bien travailler ensemble, qui nous permettra aussi de travailler dans l'unité et également dans l'harmonie. Ce langage spirituel, il nous faut le cultiver, j'ai envie de dire le développer, le préserver, afin que la discorde ne vienne jamais affaiblir le lien de la paix qui nous unit les uns les autres. Amen, frères et sœurs. Telles les cordes d'une même guitare. Notre frère jouait tout à l'heure, et c'était harmonieux ce qu'il jouait, les deux frères d'ailleurs. Mais est-ce que vous savez qu'il y a 6 cordes dans une guitare? Et si une seule n'est pas accordée, ça fait une dissonance par rapport à tout le reste. Et on a besoin d'avoir un même langage. Et ça, dans ce travail, le Saint-Esprit veut nous aider. Il nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 10, la chose suivante, 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est l'un des courriers que l'apôtre Paul a écrit à une fameuse église, l'église de Corinthe, qui paradoxalement avait les 9 dons, mais en même temps était sur plusieurs points assez charnel. Et comme pour remettre les pendules à l'heure, l'apôtre Paul, dans son premier courrier, va leur dire, je vous exhorte, il y a une autre version qui va dire, je vous en supplie, frère, au nom de Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Efforcez-vous à tenir tous un même langage. Celui de la parole. Parce qu'il y avait une discorde dans cette église. Certains disaient, moi je suis d'Apollos. Cette église a bénéficié de tellement de ministères. Le ministère de l'apôtre Paul, mais le ministère de l'apôtre Apollos, et puis le ministère aussi donc de Pierre. Et certains disaient, mais moi je suis de Paul. Ah moi je peux faire Paul. Ah non, non, non. Et puis l'autre disait, moi je peux faire Pierre. Et puis l'autre a dit, mais moi je peux faire Apollos. Et certains disaient, moi je peux faire Jésus. Et l'apôtre Paul, il a dit, oh, parce qu'il a eu écho de ces choses. Et de là où il était attristé. Et il a écrit, Je vous exhorte, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tout ça. C'est de l'enfantillage. Et l'apôtre Paul est en train de leur dire, mais finalement, mais celui qui vous a sauvé, et le seul qui vous a sauvé, c'est ni Paul, c'est ni Pierre, c'est Jésus. Et le rôle du pasteur, ce n'est pas bien de vous diriger vers quelconque homme, encore moins, mais moi je suis un chrétien comme vous. Moi j'ai pas peur de le dire. Je suis un chrétien comme vous, sauvé par grâce. Je ne suis pas Dieu. Mais au contraire, ensemble, nous allons vers le Seigneur Jésus. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui doit nous rassembler. Et c'est ce que l'apôtre Paul essayait d'expliquer à ces chrétiens. Concentrez-vous sur la personne de Jésus. C'est lui qui est mort à la croix pour vous. C'est lui qui est ressuscité. C'est lui qui est assis à la droite de la majesté divine et qui intercède pour vous. C'est lui qui chaque jour est à vos côtés. Quelquefois, on fait l'amalgame. Et si je ne vous amène pas à Christ, frères et sœurs, j'aurais échoué dans mon ministère. Si les prédications et ce que je vous apporte ne vous amènent pas à Christ, j'aurais échoué dans mon ministère et dans ma mission. Nous devons ensemble regarder vers Jésus. Et croyez-moi, frères et sœurs, si nous plaçons toujours Jésus-Christ au cœur même de nos conversations, au cœur même de nos discussions, nous aurons toujours un seul et même langage. Vous êtes d'accord avec moi ? Lorsque nous nous retrouvons entre nous, etc., parlons de Jésus. Et si c'est pour parler d'un frère, d'une sœur, si c'est pour... Prions, bénissons, ayons toujours un même et seul langage. Et c'est ainsi que nos bouches glorifieront le Seigneur. Vous avez vu ce qu'il est écrit dans Romains, chapitre 15, du verset 5 au verset 6. Romains, chapitre 15, du verset 5 jusqu'au verset 6. Romains, chapitre 15, du verset 5 jusqu'au verset 6. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que, tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. On l'a chanté tout à l'heure, sois glorifié, sois glorifié. Mon seul désir, c'est glorifier Dieu, déjà par ma propre vie. Mais qu'ensemble nous puissions glorifier Dieu, c'est ça, travailler pour Christ. Bien travailler ensemble, eh bien c'est toujours comme objectif. Et on arrive au troisième et dernier point. Objectif, glorifier Dieu. On a vu la première condition, former un seul peuple, nous le sommes. On a vu la deuxième condition, avoir un même langage. Et nous avons ce même langage et nous nous appliquons à exceller encore dans ce même langage. Mais nous découvrons une troisième et dernière condition que Dieu lui-même apporte dans Genèse chapitre 11, verset 6. Avoir un même objectif. Ces gens de l'époque, ils avaient pour projet de pouvoir monter une espèce de building de l'époque. Même un building qui arrivait à gratter le ciel. On appelle les gratte-ciels. Jésus, en tout cas, dans l'une de ses prières, nous a révélé ce qui a été l'objectif suprême de sa vie. Et vous connaissez ce passage, Jean chapitre 17, le verset 4. On peut le voir ensemble. Et l'une de ses paroles, et on le voit certainement, les yeux fermés, et les disciples prêts à écouter ce qui sort de sa bouche. Et Jésus va donner comme un résumé, ou va révéler ce qui a été l'objectif suprême de sa vie terrestre. Il va s'adresser à Dieu son Père. Il va dire, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Au fait, quand il dit, je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, c'est exactement le même objectif. Il n'y en a pas deux là. Ne voyez pas deux objectifs. Il n'y en a qu'un seul au final. Parce que glorifier Dieu sur la terre consiste à, ni plus ni moins, accomplir la volonté de Dieu. Et à l'inverse, lorsque j'accomplis la volonté de Dieu, je suis ni plus ni moins en train de glorifier Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? C'est une réalité. Un seul et même objectif. D'ailleurs, l'Esprit de Dieu, il nous a été donné pour une seule chose, pour nous aider à glorifier Jésus. Glorifier Jésus par notre témoignage, par notre vie, par nos attitudes, par nos comportements. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous a été donné. Et si au travers de notre service pour Dieu, notre seul objectif est de glorifier Christ, alors Dieu en sera pleinement honoré. Toute la gloire reviendra pleinement à Dieu. Alors c'est pour cela qu'il est important de veiller, toujours rechercher la gloire de Dieu à travers notre travail, car de toute façon le Seigneur ne donnera pas sa gloire à un autre. Vous avez vu ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 42 et le verset 8, c'est Dieu qui parle, il dit « Je suis l'Éternel ». C'est là mon nom. Et il ne ment pas en cela. Il est le Dieu de la vérité. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. S'il y a une chose qui revient à celui qui a créé le ciel et la terre, c'est la gloire. Non pas à nous, Éternel, mais à ton nom seul donne gloire. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se questionner ce que nous faisons. Finalement, pourquoi nous le faisons ? Qu'est-ce que nous recherchons ? N'ayons pas peur, peut-être, de s'asseoir et de réfléchir. Est-ce pour guérir des blessures passées ? Est-ce que c'est pour bien se mettre en avant ? Qu'est-ce que je recherche ? Et je crois que dans cette question-là, Dieu est capable de nous rencontrer et de sanctifier notre objectif. Faut-il le rappeler ? Je glorifie Dieu par ma vie lorsque je m'applique à travailler au salut des âmes. Je le dis, c'est le programme de l'Église. Nous allons encore continuer à travailler au salut des âmes, frères et sœurs. Plusieurs personnes, ces temps-ci, sont venues vers moi et m'ont dit « Mais Joël, et puis avec une grande joie, parce que quand on sert Dieu, il y a de la joie aussi. » Et ces gens sont venus me dire, ces temps-ci, ils ont été amenés dans différentes circonstances à pouvoir parler du Seigneur. Il y a une personne qui, sans citer son nom, est éprouvée dans son corps à cause d'une maladie. Mais néanmoins, Dieu lui a permis d'ouvrir la bouche et de parler à ces personnes qui se trouvaient à ses côtés à l'hôpital. C'est pour cela que nous sommes nés, frères et sœurs. C'est pour ça que Dieu nous a sauvés. Qui nous avait élus dès la fondation du monde. Il nous a sauvés, mais il comptait sur Joël, il comptait sur Antoinette, il comptait sur Bernard, il comptait sur Serge, il comptait sur ceux et celles qui lui appartiennent pour que nous soyons des loupiotes, des lumières, des phares à lui et pour ce monde. Et quel honneur, frères et sœurs, briller dans les ténèbres. Il n'y a pas meilleur endroit pour manifester la gloire du Seigneur Jésus. Je vais terminer. C'est un fait certain, je l'ai dit au début, je le dis maintenant donc à la fin. Dieu se plaît à voir ses enfants travailler ensemble pour la gloire de son nom. Frères et sœurs, si nous nous efforçons avec l'aide du Saint-Esprit de réunir ces trois conditions, de veiller à ce que ces trois conditions soient toujours présentes parmi nous, eh bien Dieu va bénir notre travail. Dieu va bénir cette église. Dieu n'en a pas fini avec cette église. Dieu connaît le parcours de cette église, combien elle a été malmenée par les tempêtes, etc. Mais cette église appartient à Jésus. Le sang de Christ a coulé pour plusieurs d'entre vous. Elle veut l'amener jusqu'au bout de tous ses projets et de tous ses desseins. Dieu veut bénir notre travail. Ce qui n'a pas été le cas pour revenir à notre texte d'introduction, ça n'a pas été le cas de ceux qui voulaient construire cette tour, la tour de Babel. Et on peut comprendre pourquoi. Eh bien, tout simplement leur objectif. Parce que finalement, vous allez me dire, mais eux aussi, ils ont réuni les trois conditions. Oui, c'est vrai. Mais la troisième condition n'a pas été valide, n'a pas été valable, n'a pas été validée par Dieu. Parce que la troisième condition, on peut la relire, Genèse chapitre 11, verset 4. Ils vont dire, ils dirent encore avec une même langue, avec un même langage, lui, eux qui formaient un seul peuple. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. En un mot, ils ont tout faux. Leur objectif même allait à l'encontre de la volonté de Dieu, qui voulait justement, après donc le déluge, parce que la circonstance de ce qui se passe là, de cet événement, c'est après le déluge. Juste après que Dieu lui-même a dit à Noé, ne le cherchez pas, Genèse chapitre 9, verset 7, « Soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » Pas rester groupés, pas rester ensemble. Eux, ils voulaient monter quelque chose qui arrive jusqu'au ciel. Et là, on voit bien que l'objectif n'était pas pur en soi. Les motivations de leur cœur n'étaient pas pures. Frères et sœurs, si notre objectif, c'est celui de glorifier le Seigneur, Dieu va valider cette troisième et dernière condition. Quel est ton objectif, mon frère, ma sœur ? Dans ta vie chrétienne, quel est ton objectif ? Pourquoi es-tu ici ce matin ? Qu'attends-tu de Dieu ? Mais aussi, est-ce que tu sais ce que Dieu attend de toi ? Ce n'est pas des questions existentielles. C'est des questions qu'on doit se poser pour ne pas qu'on soit surpris ou la tête baissée lorsqu'on comparaîtra devant le Seigneur. Et je vais terminer par cela, je veux vous le dire. Si Dieu trouve en nous ces trois conditions parmi son peuple, il va bénir son peuple. Si Dieu trouve ces trois conditions dans ta propre vie, parce qu'à un moment donné, il faut prendre le message d'une manière personnelle. Si tu fais partie intégrante du peuple de Dieu, si tu as le langage que nous enseigne la parole de Dieu, et si ton objectif est de glorifier le Seigneur, Dieu va te bénir personnellement. Il va bénir ta vie, il va bénir celle de tes enfants et de tes petits-enfants. Tu seras un sujet de bénédiction pour tous ceux qui seront à ton contact. Et je te le dis de la part du Seigneur ce matin. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois honoré. Peut-être que les musiciens, vous pourriez venir, s'il vous plaît. Peut-être rechanter ce chant, sois glorifié. Alléluia. On veut glorifier le Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes déjà dans l'éternité. Le temps nous appartient. Et nous voudrions, par une prière, mais aussi au travers de ce chant, dire, Seigneur, sois glorifié. Sois glorifié, eh bien, sur la terre. Sois glorifié dans ma famille, sois glorifié au travers de ma vie, comme tu es glorifié dans le ciel, parce que dans le ciel, tout s'écrit gloire, nous dit la parole de Dieu.